11h39 minutes dans le Point de Max à Boulevard. En fin de semaine, gros duel. Le Rouge et Or qui affronte les Carabins de Montréal au Stade TELUS de l'Université Laval. C'est dimanche que ça se passe. Et qui dit match de football? Rouge et Or Carabins dit tailgate, arrivé dès 9h30 pour venir profiter de l'avant-match Boulevard présenté par Laurier Québec. Venez voir notre équipe et gagner plusieurs prix, dont des cartes cadeaux Laurier Québec. Et en plus de ça, en venant nous voir, tu peux nous montrer que tu as l'application Boulevard 101 sur ton cell et on met ton nom dans le baril pour gagner 500$ chez Laurier Québec à la fin de la saison. Si tu veux acheter tes billets, rougeor.ulaval.ca, rougeor.ulaval.ca. On se voit au tailgate dimanche dès 9h30 avant le match entre le Rouge et Or et les Carabins. Dossier très intéressant ce matin dans la presse. On parle beaucoup de nos enseignants qui sont en surcharge de travail, qui en ont beaucoup sur leurs épaules dans un contexte où, en plus de ça, il en manque des enseignants. Et dans la presse ce matin, on présente un dossier sur les plans d'intervention dans les écoles du Québec. On peut lire qu'un élève sur quatre a un plan d'intervention dans la province. C'est quoi ça? C'est quoi comme charge de travail pour les enseignants? On en parle avec Luc Paquet, qui est directeur de l'école secondaire du Mont-Saint-Anne. Luc, salut!
Salut Max, ça va bien?
Yes, super toi!
Oui, très bien, merci.
Les fameux plans d'intervention, là, puis comme je disais, ça serait un élève sur quatre qui a ça dans la province. Est-ce que ça vous touche, vous, directement à l'école secondaire du Mont-Saint-Anne?
Oui, vraiment. C'est vraiment quelque chose qui est important, qui est un enjeu. Ça représente environ 28%, moi, de mes élèves. Donc, autour de 1200 élèves, c'est pratiquement 380 jeunes qui ont un plan d'intervention. Donc, un plan d'intervention, ça touche d'abord les élèves là, qui sont en situation d'handicap, mais ensuite, tous les élèves pour qui on a besoin d'équitabilité, qui est à la base un peu là, de tout ce qui touche l'adaptation scolaire. Donc, de permettre à des jeunes qui ont certains facteurs qui pourraient nuire à leur réussite, de quand même être en mesure d'avancer pareil. Donc, un exemple clair, là, une mesure qu'on voit beaucoup, c'est des jeunes qui ont accès à un ordinateur pour pallier à une dyslexie ou pour pallier à une dysorthographie. Donc, les jeunes utilisent l'ordinateur dans la salle de cours, ça va lire pour eux, ça peut suggérer des banques de mots quand ils écrivent, et c'est permis, ils peuvent se rendre jusqu'au doctorat s'ils veulent avec ces outils-là sans aucun problème. C'est comme si on avait quelqu'un qui a de la misère, qui a des problèmes de vision, va utiliser des lunettes, bien ça devient un peu une lunette pédagogique pour la réussite des gens.
Là, tu me parlais de l'ordinateur. Je pense que l'image est claire pour bien du monde. Puis même, ça m'a ramené dans mon adolescence. Au secondaire, on voyait certaines personnes avec justement des ordinateurs dans les classes. Puis il y en a qui se plaignaient de ça. Pourquoi lui a le droit, mais pas moi? Puis bon, c'est le fameux plan d'intervention qui est bon pour certaines personnes. Dans la presse, on donne d'autres exemples qui m'ont frappé. T'sais, on dit, exemple qu'un élève sur ses copies, il va falloir que ce soit écrit plus gros. Un autre, mettons qu'un enseignant imprime des feuilles pour toute la classe, puis il y a des images sur des feuilles, bien sur certaines, il faudrait enlever les images parce que ça peut déconcentrer. Là, c'est là que ça devient beaucoup de charges de travail pour un enseignant?
Bien, puis pour beaucoup de monde. Tu sais, ce qu'il faut se dire, là, c'est que tout ça part vraiment d'une bonne foi. Dans le sens qu'un enseignant de quatrième année va dire « J'aimerais avoir un plan d'intervention pour mon élève parce que lorsque j'écris plus gros, prenons exemple, puis que je mets moins d'images, ça l'aide vraiment. » Donc là, de bonne foi, la direction va ouvrir un plan d'intervention, puis le professeur va se créer peut-être un 12e plan d'intervention là-dedans, mais ce qu'il veut, c'est que lorsque l'enfant va passer au niveau suivant, que ça soit mis en place. Donc, c'est comme une manière de vouloir s'assurer que ce qui fonctionne dans ma classe fonctionne dans une autre classe. Mais là, on va le mettre sur que l'enfant soit assis au bon bureau, que le jeune, on prenne le temps d'y réexpliquer les choses. Donc, on fait beaucoup de petites affaires comme ça. Puis dans l'article, on le voit bien où que c'est des mesures qu'on appelle universelles qui devraient être faites à la base, là, souvent pour tous les élèves. Mais pour s'en assurer, on prend un plan d'intervention. Et ça crée, à quelque part, beaucoup d'administration. Donc, exemple, l'enseignant, là, qui a 12 plans d'intervention, ça a une valeur légale, il sait que s'il le fait pas, le parent va revenir ou que la direction va revenir. Pour la direction, là, rédiger un plan d'intervention, plus faire, là, les rencontres qui s'imposent pour ça, c'est environ 1h45, 1h30 à 1h45 par plan d'intervention. Prenons mon école, j'en ai 400. Fait que c'est 400 fois 1h45 que j'ai des adjoints qui investissent pour mettre en place ces plans-là. Donc, il y a comme un ménage à se dire, qu'est-ce qui fait partie de la classe universellement, donc qu'on n'aurait pas besoin de mettre là-dedans, puis est-ce qu'il y a d'autres mesures qu'on aurait vraiment besoin de rédiger un plan d'intervention ou pas?
On l'a-tu trop facile, le plan d'intervention au Québec? Est-ce que trop d'élèves y ont accès peut-être trop facilement? Certains qui, bon, n'ont peut-être pas tant besoin au final?
On veut assurément vraiment beaucoup aider nos élèves. T'sais, je pense que ça, c'est clair. On veut vraiment aider les élèves, puis ça part toujours d'une bonne foi. Maintenant, peut-être que oui, il y a des moyens qu'on pourrait se dire, c'est pas de ça n'a pas sa place dans un plan d'intervention. On préfère ce qu'on appelle des fois un plan d'action qui est un peu moins lourd là, au niveau du processus. On préfère y aller de recommandations. Donc, assurément. Et puis, ça fait aussi partie du discours, tu sais, les parents qui veulent le bien pour leur enfant, disent, il me semble que je vais sortir un plan d'intervention, ça fonctionne pas avec mon enfant. Mais c'est pas nécessairement le plan d'intervention la solution. Mais des fois, on y va rapidement pour avancer, mais c'est là qu'ils finissent par se multiplier. Puis, c'est sûr, des fois, on entend parler beaucoup de l'école à trois vitesses. Bien, les plans d'intervention, il y en a beaucoup plus dans les écoles publiques que dans les écoles privées. Mmh. Fait que c'est certain que c'est des élèves qui éprouvent aussi des difficultés qui ont un plan d'intervention. Donc, plan d'intervention ou pas, ça demeure des élèves fragiles sur le plan de la réussite.
Le processus, bon, j'imagine que ça dépend des cas, mais si on généralise, le processus qui va mener à un plan d'intervention, c'est-tu le parent qui va aller rencontrer la direction puis dire hey, « moi, mon enfant a tel problème et ça prendrait tel temps, tel plan d'intervention? »
Ça peut venir de trois endroits. Là. Le parent peut le faire. Beaucoup le monde scolaire, donc tu sais, nos orthopédagogues, un psychologue, un enseignant qui vont voir des besoins qu'on va amener. Et parfois, les professionnels de la santé. Donc, un jeune qui va aller se faire évaluer en neuropsy pour peut-être un TDAH, exemple. Donc, et là, le professionnel va amener des mesures que l'on devrait mettre en salle de classe. Peut-être donner plus de temps. Peut-être donner accès à du matériel pour qu'il puisse bouger. Et là, ben, l'école va se sentir obligée parfois d'aller mettre en place un plan d'intervention pour s'assurer que ça soit fait. Ça devient comme culturel, Max, à un certain moment, cette histoire-là. Puis nous, exemple, quand on est au secondaire, on fait tout le temps un genre de ménage de ceux qui arrivent du primaire, de dire, bon, ben ça fonctionne quand tu es tout le temps le même prof avec les mêmes 25 élèves, mais quand tu en as 9 enseignants, ben c'est plus ou moins adéquat. Fait qu'on va venir le pallier, puis on va venir le retravailler en négligeant pas que c'est un enfant qui vit des fragilités académiques, mais en se faisant en sorte que le plan demeure pertinent, puis de voir aussi à la nécessité de le garder ou pas, selon le cas.
Y a-t-il des profs, des fois, qui rentrent dans ton bureau puis qui disent là que ça n'a pas de bon sens dans ma classe, j'en ai 14 plans d'intervention, j'y arriverai pas?
Oui. Puis le défi, là, c'est vraiment le plan d'intervention, c'est bien écrit dans la presse, c'est quelque chose qui est très individuel. Alors que l'enseignant va souvent gérer du collectif, va essayer de créer un climat de classe, va essayer de travailler en sous-groupe, va essayer de pas s'éparpiller. Donc, il est pris entre ce dilemme-là de répondre aux 14 demandes individuelles de plan d'intervention, mais en même temps, de pouvoir être libre de travailler avec sa classe. Donc, c'est vraiment là-dedans. Puis là, ce qu'on va essayer de faire, c'est parfois dire, OK, mais cette mesure-là dans ton plan d'intervention, y a-t-il un moyen qu'on pourrait faire en sorte que ça soit bon pour tous les élèves, puis que tu n'aies pas à te préoccuper de dire « je l'ai-tu fait ou je ne l'ai pas fait ». Donc, c'est un peu une façon qu'on va venir aider les enseignants, dire comment qu'on peut rendre une mesure qui est bonne pour un élève, bien, elle est peut-être bonne pour tout le monde. Par exemple, un enfant qui a un trouble du spectre de l'autisme va avoir besoin souvent là, que ça soit très, très clair au tableau. Le temps est très bien identifié. Ben ça, c'est pas mauvais pour... Tu sais, c'est une bonne affaire pour tout le monde. Là, on va essayer de le mettre en place. Donc, le plan va peut-être amener un changement dans la salle de classe, mais c'est assurément c'est un bruit de fond qui est constant pour les enseignants parce que c'est quand même légal. Là. Il y a une obligation de les appliquer, les plans d'intervention.
Dans le dossier de la presse, il y a une spécialiste qui est citée qui dit « C'est comme si on avait une politique de vaccination qui datait de 25 ans. » C'est un peu ça le problème, parce qu'on a mis quelque chose en place, puis là, ben au fil du temps, on a juste commencé à l'appliquer, puis on l'applique à cette heure beaucoup trop, puis on n'a jamais vraiment révisé la façon de faire.
Ben, je suis pas un chercheur dans ce domaine-là, mais ce qui est sûr, c'est qu'à la base, on devait se dire qu'il y a des enfants qui ont besoin d'adaptation pour être capables de réussir. Puis le plan d'intervention va permettre aux enfants d'avoir accès. Je vais reprendre l'ordinateur que tu parlais, qu'on parlait tantôt, Max. Donc, ça devait être très, très clair dans l'idée initiale. Maintenant, le nombre d'élèves qui est en difficulté, encore une fois, je ramène l'école à trop vitesse, mais le nombre en difficulté dans une école secondaire, dans une école primaire publique, ben probablement que le résultat du nombre de plans d'évaluation, on l'avait pas prévu. Là. Puis effectivement, je pense qu'il faut prendre un pas de recul et le voir. Là. Des fois, des élèves qui ont un trouble de l'attention avec ou sans hyperactivité, ben les enfants vont avoir besoin d'un peu plus de temps pour faire leur examen. Ben nous, juste donner ça, faut ouvrir un plan d'intervention et faire tout ce qui vient avec ça. Donc, est-ce que ça devrait être une nécessité ou pas? Il y a assurément des questions là qui se posent et qui s'imposent pour revoir ça, parce que ça devient aussi beaucoup de temps qui est investi pour faire les plans puis les réguler. Ce temps-là, ben mettons, si je parle pour une direction, bien c'est pas du temps que je suis en train de soutenir mon prof dans sa salle de classe puis de l'aider à trouver des façons d'aider James ou Jérémy qui a des difficultés.
Luc, merci beaucoup.
C'est un plaisir. Merci.
Salut, à la prochaine. Luc Paquet, directeur de l'école secondaire du Mont-Saint-Anne. On se jasait du dossier de la presse que je vous invite à aller lire, là, qui est en deux parties. Première partie, on nous parle du Québec qui est champion des plans d'intervention. Puis ensuite de ça, on nous parle d'une consultation provinciale qui est demandée par des experts. Puis la discussion qu'on vient d'avoir avec Luc vient appuyer là, des chiffres qu'on voit dans ce texte-là et des témoignages aussi. Luc, il disait que c'est à peu près quasiment 30% du côté de l'école secondaire du Mont-Saint-Anne des élèves qui ont accès à un plan d'intervention. 30%, c'est beaucoup. Déjà que je trouvais qu'une personne sur quatre dans le chiffre qu'on donnait dans le texte de la presse, je trouvais que c'était beaucoup. Et là, on est même au-dessus de ça du côté de l'école secondaire Mont-Saint-Anne. Puis pour les professeurs, c'est une charge de travail de plus. Puis je dis les professeurs, mais ce que Luc a bien expliqué aussi, c'est que c'est pour tout le monde, là, les adjoints administratifs qui doivent passer du temps à s'occuper de la paperasse pour tous ces plans d'intervention-là. Fait que vraiment, je pense que c'est un problème qui a bien été mis à l'avant-plan là, par Léa Carrier de La Presse. C'est déjà pas mal tout pour nous. Je vous souhaite une excellente journée. Jeff Fortin s'en vient avec Antonine Iacarini, puis après ça, c'est Gravel dans le retour. Salut, ciao!